Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, en Ituri, 7 personnes d'une même famille ont été tuées mardi dernier par des rebelles, les ADF, sur le tronçon Komanda-Luna, au sud du territoire d'Irumu. La nouvelle a été rendue publique ce vendredi par l'organisation Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH. 5 personnes, membres d'une même famille, sont mortes à 1h du matin ce vendredi dans un incendie dans la commune de Kadutu, à Bukavu. Nous sommes au sud Kivu. Le feu a consumé la maison tout entière avec tous les occupants, parmi lesquels une femme enceinte. L'invité de ce journal est Maître Grégoire Bakandenja, professeur des universités en mission à Mbujima et au Kassai Oriental. Il s'exprime sur la non-application de la décentralisation fiscale par rapport au non-respect des normes. En Ituri, 7 personnes d'une même famille ont été tuées mardi dernier par des rebelles des ADF dans le village de Bekembela, sur la colline Boutani, à 14 km à l'ouest de la route nationale numéro 4 sur le tronçon Komanda-Luna, au sud du territoire d'Irumu. La nouvelle a été rendue publique ce vendredi par l'Organisation de défense des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH en sigle. Selon cette structure, les victimes ont été surprises dans leur maison. Le chef de famille qui voulait s'enfuir a été blessé par balle et acheminé dans une structure médicale à Beni, au nord Kivu, alors que sa femme ainsi que leurs enfants ont tous été tués par les rebelles et leur maison incendiée. Plusieurs sources concordantes dans la zone invitent les autorités militaires à renforcer leur présence dans les villages Boutani, Madina 1 et 2, Bounassoura, où ces hommes civiques ont érigé leur bataillon. Nous n'avons pas encore la réaction de l'administrateur du territoire à ce sujet. Et puis près de 300 acteurs locaux représentant les différentes couches sociales d'Ouvira ont été sensibilisés hier jeudi sur le plan de retrait et de désengagement de la MONUSCO, son mandat actuel et l'accord de siège. Ces représentants de la population civile d'Ouvira saluent la clarté du message du chef de la MONUSCO et souhaitent que la sensibilisation des couches sociales se poursuive dans la ville et les territoires d'Ouvira. On écoute quelques réactions recueillies par Fiston Goma.
Il faut que le gouvernement nous fixe, nous, population, pour dire effectivement si la situation sécuritaire s'est améliorée ou pas. Parce que le mandat de la MONUSCO, il y a aussi cette imposition de la paix par tous les moyens. C'est le cas de la population qui est fatiguée. Moi, je me dis, la MONUSCO peut encore avoir la place avec cette histoire des élections. En quoi est-ce qu'il est capable et qu'est-ce qu'encore la MONUSCO peut faire par rapport à la sécurité, par rapport à d'autres enjeux?
Vraiment, je félicite l'explication du chef de bureau parce que la renouvellement s'est passé dans le calme. Nous, on pensait que ça va peut-être barder, mais que c'était passé dans le calme. Parce que c'est à partir de son explication sur le mandat de la MONUSCO qui a permis à ce que les gens puissent bien comprendre, au point même de manquer même des questions. Ça, c'est vraiment un bon départ. Nous avons compris que la MONUSCO est encore là et son départ va venir progressivement par rapport à l'accord de siège signé entre les Nations Unies et les gouvernements. Ils ont commencé déjà à partir, comme par exemple province de Tanganyika, province de Kasai. Moi, je pense pour Ouvira aussi, Sud Kivu, ça va venir progressivement comme on nous a expliqué.
Au nord Kivu, la tension est restée vive ce vendredi matin dans la commune rurale de Kiwanja, en territoire de Rutshuru. À l'origine, un groupe de jeunes manifestants qui se sont attaqués jeudi soir à la base et un convoi de casques bleus de la MONUSCO en provenance du grand nord de la province. Ces jeunes ont barricadé la route nationale numéro 2 toute la nuit. Les activités socio-économiques sont restées paralysées toute la matinée. Les détails avec Blaise Ndongala.
Tout a commencé autour de 21h locales quand un groupe de jeunes a pris à partie le convoi de casques bleus qui provenait du grand nord de la province. Selon des sources locales, l'armée est intervenue en tirant des coups de feu en l'air pour disperser ces manifestants. Des tirs qui ont été entendus toute la nuit car, ajoutent ces sources, ces jeunes munis d'armes blanches tentaient de forcer le passage pour envahir la base de la MONUSCO. Un des manifestants a été blessé autour de minuit. Ce matin, les forces de l'ordre se sont déployées pour dégager les barricades sur la nationale numéro 2 au centre de Kiwanja, affirme le bourgmestre. Jason Tawiya précise que les trafics routiers ainsi que les activités économiques sont restés paralysés toute la matinée. Précisons que ces derniers incidents coïncident avec l'appel à une journée ville morte lancé ce vendredi par un présumé mouvement de la lutte pour le changement. C'est depuis le 22 août que ces jeunes présumés de la lucha s'attaquent à tout véhicule conduit par les casques bleus dans la zone, précise des sources concordantes.
La société civile du Lualaba et la commission parlementaire de l'Assemblée provinciale de cette même province ont rendu public les rapports d'enquête portant sur l'opération dénommée « Zéro délinquant » dans la ville de Kolwezi. Les deux commissions ont reconnu qu'il y a eu des dérapages et que les personnes injustement transférées à Kanyamakassese devraient retourner. Des détails avec Jean Gandou.
Dans son rapport intitulé « Anti-amateurisme et complaisance d'État, que retenir de l'opération zéro délinquant dans la province du Lualaba », la société civile qui dit avoir mené des enquêtes tant auprès des victimes que des familles éprouvées dresse le bilan de 3 personnes décédées, 6 blessées et 23 familles qui réclament leurs membres qui ont été déportés vers Kanyamakassese. Au sujet de ce bilan, le rapport indique qu'il est provisoire. Pour les membres de cette structure citoyenne, il y a eu de nombreux dysfonctionnements qui ont abouti au drame déploré. Pour eux, cette opération n'a aucune base légale et elle a été menée en toute irrégularité et s'est apparentée à un enrôlement forcé au sein du service national. Et les responsabilités sont partagées entre l'autorité provinciale qui en a donné l'ordre et les forces de sécurité qui l'ont exécuté. Ils déplorent aussi la non-assistance des blessés qui sont admis à l'hôpital Mwangeji et demandent que cette opération soit arrêtée et que les personnes injustement transférées à Kanyamakassese soient retournées. Ils ont également fait des recommandations à toutes les autorités du pays. Quant à la commission mise sur pied par l'Assemblée provinciale, elle a aussi déposé son rapport au bureau de cet organe délibérant qui l'a analysé et adopté moyennant quelques amendements. Pour les rapporteurs de cette Assemblée provinciale, la primeur est réservée au président de la République. Toutefois, les personnes qui ont été arrêtées arbitrairement et amenées à Kanyamakassese devraient être rappelées et retournées à Kolwezi et les autres vont y rester, tout en soulignant que Kanyamakassese n'est pas une prison. Tous les deux rapports ont reconnu que lors de cette opération, il y a eu des dérapages. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, dans la province d'Ikwilu, le village Ifanzono, dans le territoire d'Idiofa, est vidé de toute sa population depuis mercredi dernier. Cela après les altercations entre les civils et la police venus pour arrêter un ancien prêtre catholique devenu exorciste. Le bilan de ces affrontements fait état de 3 morts, dont un policier et plusieurs blessés graves, parmi lesquels 2 policiers. Selon la nouvelle société civile du territoire d'Idiofa, cet incident fait suite au refus par la population d'exécuter un mandat d'amener du procureur général d'Ikwilu émis depuis la ville de Bandundu contre cet exorciste. Irène Boma pour plus d'explications.
Les faits se sont déroulés mercredi dernier au village Ifanzono, situé à près de 17 km de la cité d'Idiofa, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Selon les coordonnateurs de la nouvelle société civile de ce territoire, tout est parti lorsqu'une équipe de policiers est arrivée pour exécuter un mandat d'amener contre le père Odo Manaba, un exorciste de la place. C'est quand ses adeptes se sont soulevés vivement pour contrecarrer cette arrestation que les policiers ont commencé à tirer à balles réelles et ont tué 2 civils, rapporte la même source. Pour venger leur frère tué, ses adeptes ont aussi tué à l'aide de coups de bâton et de machettes un de ses policiers. Voilà ce qui a poussé toute la population à vider le village, craignant les représailles. Arsène Kassiama déplore ces meurtres et demande que les vrais auteurs répondent de leurs actes devant les instances compétentes.
Les auteurs de meurtres, nous attendons que la justice militaire puisse poursuivre les auteurs de cette tuerie.
Pour sa part, l'administrateur du territoire du Djofa, Jean-Marie Lassoué, appelle les habitants en fuite à regagner leur domicile et à vaquer librement à leurs occupations. Il précise que le père Odo Manaba a été acheminé à Kikwit. Outre ces 3 morts, les sources locales signalent aussi plusieurs blessés, parmi lesquels 2 policiers. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et tout ce que nous voulons, c'est que tous les déplacés du territoire qui sont allés se réfugier au village Lediba, dans le territoire des Bolobo, puissent regagner leurs maisons et villages respectifs. Cette déclaration est de Rita Boladula, gouverneure de la province du Maïndombé, qui est arrivée jeudi à Kwamout. Elle rassure que toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour que ces déplacés reprennent leur vie habituelle. En entendant, elle fait savoir que la province vient de venir en aide à ces déplacés en leur envoyant un lot important de médicaments et en renforçant l'équipe médicale à Lediba. Rita Bola a été jointe par Irène Boma.
Depuis que je suis à Mouchi, j'ai communiqué déjà avec eux, les gens-là. Donc, on a envoyé des médicaments pour secourir un peu parce que là-bas, il y a beaucoup plus de blessés. Et nous avons complété l'équipe, le corps médical qui est là-bas. Ils avaient besoin encore des infirmières en plus. Nous avons envoyé des infirmières à partir de Mouchi. Ils sont allés rejoindre l'équipe et beaucoup, beaucoup de médicaments. Donc, nous sommes en contact permanent avec les IBA. La population doit se calmer. Nous sommes en train de dire à la population, surtout aux déplacés, qui sont maintenant partout, nous leur rassurons. Tout ce que nous voulons, c'est que les déplacés regagnent leur maison, puissent vraiment regagner leur village. Et nous allons mettre la police, les militaires, sur place, seront là en train de les sécuriser afin qu'ils puissent reprendre leur vie habituelle. Donc, j'ai aimé quand la population a crié, quand elle m'a vu, un moment et là, il n'y aura plus de guerre. La guerre est finie. J'étais à un moment de 8 territoires, de 8 enfants. Et si un seul enfant est malade ou est blessé, je suis capable de laisser les 7. Et je suis venu secourir le seul enfant qui est le territoire de Kouamoto qui est malade.
5 personnes, membres d'une même famille, sont mortes dans un incendie dans la commune de Kadutu, à Bukavu. Nous sommes au sud Kivu. L'incendie s'est déclaré à une heure du matin ce vendredi sur avenue Ruvumba au quartier Kadjangu. Le feu a consumé la maison tout entière avec tous les occupants, les 2 parents et leurs 3 enfants. La femme est décédée avec une grossesse, selon le communicateur urbain de la Nouvelle Dynamique de la société civile, Sylvano Safari, dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
C'était aux environs d'une heure du matin qu'on nous a alerté que la maison de Chizam Charamine est en train de prendre feu ici dans l'avenue Ruvumba. On a essayé d'alerter la population et nous sommes allés au lieu du drame. On a essayé d'éteindre le feu. Malheureusement, toutes les personnes étaient déjà mortes, dont 2 parents et 3 enfants. Et la femme était enceinte. Depuis hier, nous sommes ici. Jusqu'à présent, aucune autorité n'est sur place, malgré les alertes faites. Et nous sommes avec les corps, nous attendons les autorités pour réfléchir de la possibilité d'inhumation de ce genre.
Au Maniema, à l'approche de la saison des pluies, la société civile Force Vive attire l'attention du ministre national des Travaux publics et infrastructures par rapport à un grand trou qui s'est créé en plein centre-ville de Kindu sur la voie publique sur l'avenue Joseph Kabila. Ce trou oblige les passants à n'utiliser que le sens unique au risque d'éventuels accidents de circulation et de la population environnante. On écoute Maître Stéphane Kamundala, président de la société civile Force Vive de Maniema, au micro de Florence Kizalunga.
Ils sont une 20aine qui sont en chômage obligé depuis le mois d'avril 2021 et qui ne savent même pas sur quel sein c'est voué et qui souffrent, qui croupissent dans la misère. Nous avons essayé de nous renseigner et nous avons compris que tout était bloqué au niveau du ministère de développement rural parce que, selon les informations en notre possession, le ministre, à son avènement à la tête de ce ministère, cherchait à savoir qui avait des omis et à régulariser la situation. Et il y a peu, nous avons appris par la voix des hommes qu'il venait de nommer les DG et les DGA de cette institution, une chose qu'on applaudit et qui constitue une lueur d'espoir pour ses agents. La société civile, ayant appris cela, recommande alors à son Excellence Robota d'accélérer la procédure de réhabilitation de tous ses agents, particulièrement ceux qui souffrent au maniement, pour que chacun d'eux rejoigne son poste d'affectation selon les arrêtés en leur possession et les actes de notification qui sont entre leurs mains. Ils souffrent et c'est mieux qu'ils soient réhabilités dans leurs fonctions le plus tôt possible.
La gouverneure du Tanganyika séjourne à Kinshasa depuis mercredi dernier pour répondre à l'invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Cette invitation intervient sur fond de différents problèmes qui secouent la province du Tanganyika. Explication avec Paulin Munanga.
Parmi les problèmes qui prévaut dans la province du Tanganyika, il y a eu le saccage du siège de l'Assemblée provinciale, des bagarres entre députés et leurs militants respectifs qui ont abouti finalement à la fermeture du parlement de cette province. Il y a aussi l'insécurité dans la ville de Kalemie qui refait surface et celle qui prévaut dans les territoires de Manono. Et puis, la gouverneure du Tanganyika a demandé un crédit auprès de la Rawbank de 10 500 000 dollars américains. Elle justifie ses prêts pour effectuer des travaux d'infrastructures routières visant des échanges commerciaux à travers les différents territoires. Certains opposants ont dénoncé cela, craignant que cet argent ne soit utilisé pour d'autres fins par manque de l'organe de contrôle qui est l'Assemblée provinciale. Pour les conseillers en communication de la gouverneure du Tanganyika, ce n'est pas en 2 mois seulement que la gouverneure peut juguler les problèmes qui se posent dans la province. Jacques Vallon Kaboulo.
Madame a pris les fonctions le 1er juillet. En 2 mois, elle a trouvé des situations. Elle est en train d'asseoir son administration. Elle est en train d'asseoir ses services. Dans 2 mois, vous pensez qu'elle va acheter des véhicules pour donner aux policiers, pour faire quoi? Elle fait l'état des lieux. Il faut qu'elle s'assure qu'il y a tel dossier, qu'il y a tel domaine. Le Tanganyika, c'est le ventre mou de la République. Hein. Les gens oublient que le Tanganyika, c'est aussi un problème sérieux. Donc, madame prend les fonctions au moment où ça bouillonne.
Kalemi Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dakar propose des bons offices dans le dossier des accusations de Bamako contre Paris, alors que les Nations Unies n'ont toujours pas répondu au Mali, qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité. Le Sénégal se place comme médiateur entre le président de la transition, Assimi Goïta, et le président français, Emmanuel Macron. En Angola, le MPLA remporte les élections générales selon les résultats provisoires. La Commission nationale électorale a donné hier jeudi ses derniers résultats provisoires. Il s'appuie sur 97% de vote. Pour la première fois depuis l'indépendance, le MPLA l'emporte avec une courte majorité.
L'invité.
L'invité de ce journal est Maître Grégoire Bakandedja. Ce professeur des universités est en mission en Boujimaï au Kassai oriental. Il s'exprime sur la non-application de la décentralisation fiscale suite au non-respect des normes. Le professeur Grégoire Bakandedja s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour professeur Grégoire Bakandedja. Quel est le but de votre mission en Boujimaï au Kassai oriental?
Et là, je suis en séjour à Boujimaï pour quelques dons d'ouvrages pour les facultés de droit et des sciences économiques de l'Université officielle de Boujimaï. Et j'ai pu donner une conférence sur les questions de la décentralisation fiscale.
Par rapport à la décentralisation fiscale, qu'est-ce que vous avez dit concrètement?
L'intitulé, c'était « Heure et malheur de la décentralisation fiscale en République démocratique du Congo ». Alors, pourquoi j'ai dit « heure » ? Parce que les gens avaient placé l'espoir dans la décentralisation pour résoudre les problèmes de financement des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est pourquoi dans la Constitution de 2006, on a prévu cette clé de répartition entre le pouvoir central et les provinces. Donc la décentralisation fiscale, c'est un aspect de la décentralisation des ressources financières. On l'a fait, mais sa mise en œuvre est fort laborieuse parce qu'on l'a fait sans avoir mieux pensé pour mieux appliquer. Et le problème aujourd'hui, c'est que les ressources transférées aux provinces, on ne sait pas dans quelles conditions ces ressources sont utilisées, même les 40% que doivent retenir les provinces à la source. Le problème, c'est la perception. Comment on peut réaliser une perception pour les dispatcher entre les entités étatiques ou les entités territoriales ou provinciales? C'est un problème d'organisation sur le plan d'un shift de transfert de fonds. On capte pour tout le monde et on transfère au fur et à mesure. Parce qu'en fait, les ressources qui sont transférées ne sont pas les ressources de la province, ce sont les ressources de l'État. Et l'État est un. Mais quand on transfère des ressources, on devrait aussi transférer les charges. C'est ça la logique. Mais on a transféré des ressources, les provinces ne peuvent pas prendre en charge le fonctionnement des services, les salaires, on n'a pas pu faire ça. Donc, c'est pourquoi on a des difficultés de mise en œuvre. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut que les gens comprennent que la décentralisation fiscale, elle est consacrée, mais elle n'est pas appliquée. On a même eu des lois, comme la loi sur la libre administration des provinces, etc. Moi, j'ai participé un peu à le renforcement des capacités des députés pour que cette loi-là soit ce qu'elle est. On a prévu là que les provinces peuvent créer des impôts. Les impôts sont créés par le Parlement national. Ça crée un peu de confusion pour les gens. Alors il faut expliquer ça. Puis on a créé tout ce qu'on appelle régie provinciale, direction générale des recettes. Tout ça se fait dans le désordre. On n'a pas respecté ce nombre de normes pour que les provinces puissent se développer. Et le développement, quand on dit développement à la base, c'est développement au niveau des municipalités. Qui dirige vos communes? Et ce sont des organes élus. Mais tout le monde veut être député national, président de la République et tout ça. Mais est-ce qu'un pays, tout le monde peut accéder à n'importe quelle fonction?
Et professeur, d'après vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire par rapport à la rétrocession?
Moi, je ne vais pas entrer dans les termes rétrocession, retenue à la source. Les gens ne comprennent pas. Moi, je suis un financier. Le problème, c'est qu'il y ait des ressources qui aient été prévues et que ces ressources parviennent aux destinataires. Parce que nous sommes le seul pays au monde où il y a cette clé de répartition-là et ça pose des problèmes. Moi, j'étais parmi les rédacteurs de la partie financière de la Constitution. Je leur avais dit, on ne peut pas, dans une Constitution, prévoir une clé de répartition. Ça ne va pas marcher. Parce que nulle part au monde, ça marche. Parce qu'on discute. Nous sommes un État fédéral, nous sommes un État unitaire, on raconte beaucoup de choses. Il n'y a que deux formes d'État dans le monde. Il y a l'État unitaire et l'État fédéral. Un État unitaire qui renforce la décentralisation politique au plus haut niveau devient un État fédéral. Il n'y a pas comme au Congo, nous sommes un État semi-présidentiel avec tout ça. C'est parce que les gens ne veulent pas comprendre.
Nous apprenons qu'il y a beaucoup de provinces aujourd'hui qui ne reçoivent plus ces fonds rétrocession.
Pourquoi vous avez créé des provinces? Une province, pour la créer, il faut qu'elle soit viable. Moi, je vous dis que sur 26 provinces-là, il n'y en a que 6 qui sont des provinces. Les autres-là sont des ligablos familiaux. Avant de créer les provinces, il faut s'assurer de leur viabilité économique. C'est ce qu'on avait prévu. mais ça ne fonctionne pas. Alors il faut avoir le courage de revenir aux grands ensembles. Et dans le discours, on a Grand Kassai, Grand Équateur, Grand Katanga, etc. Et le développement d'un pays, ce n'est pas par les minéraux qu'il y a là-dedans. Le développement, c'est par l'agriculture, le développement rural, etc. C'est ça qui est négligé au Congo. Le peu de minéraux que vous avez, ça ne vous appartient pas. Mais dans la tête de Congo, Dieu, ah, nous avons des cuivres, nous avons le... Est-ce que c'est à vous? Ce n'est pas à vous.
Merci beaucoup, professeur.
Je vous en prie, madame.
Et c'était l'invité de ce journal, Maître Grégoire Bakandedja, qui s'entretenait avec Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.